Chapitre 12. Pour rentrer à Ea, nous fîmes un détour afin d'éviter Scylla. Le voyage prit 11 jours. Le ciel étendait sa voûte claire et lumineuse au-dessus de nous. Je fixais les vagues aveuglantes, le soleil à la blancheur incandescente. Personne ne me dérangeait. Les hommes détournaient les yeux sur mon passage et je les vis jeter dans les flots une corde que j'avais touchée. Je ne pouvais guère leur en vouloir. Vivant à Knossos, ils ne connaissaient déjà que trop la sorcellerie. À notre arrivée, ils portèrent consciencieusement le métier à tisser à travers les bois pour le déposer près de mon âtre. Ils conduisirent aussi les 8 moutons en haut de la colline. Je leur offris du vin et un repas, mais bien sûr, ils refusèrent. Ils regagnèrent leur navire à la hâte et reprirent fiévreusement les rames, pressés de disparaître derrière l'horizon. Je les observais jusqu'à ce qu'ils se volatilisent d'un coup, telle une flamme qu'on mouche. Malione lançait des regards mauvais depuis le pas de ma porte. Elle agitait sa queue comme pour dire « Il vaudrait mieux qu'il n'y en ait pas d'autres ». « Je crois que oui », la rassurai-je. Après les pavillons ensoleillés et ouverts à tout vent de Knossos, ma maison me fit l'impression d'un terrier douillet. Je parcourus ces pièces bien rangées, absorbant le silence, le calme, le frottement solitaire de mes pas sur le sol. Je passai mes mains sur chaque surface, chaque placard et chaque coupe. Ils étaient comme ils avaient toujours été, comme ils seraient toujours. Je sortis dans mon jardin, ôtai les mauvaises herbes qui s'obstinaient à repousser et plantai les simples que j'avais ramassées sur le mont Dicté. Loin de leur cavité illuminée par la lune, ils paraissaient étranges, à l'étroit dans mes massifs gais aux feuilles brillantes. Leur bourdonnement semblait plus léger, leur couleur délavée. Je n'avais pas envisagé que leur pouvoir puisse ne pas survivre à la transplantation. Durant toutes mes années à Ea, être contrainte d'y vivre ne m'avait jamais irritée. Après le palais de mon père, l'île représentait pour moi la plus sauvage et enivrante des libertés. Ses grèves et ses pics s'ouvraient tous à l'horizon, remplis de magie. Mais en admirant ces fleurs fragiles, je sentis pour la première fois le poids de mon exil peser sur moi. Si elles mouraient, je ne pourrais pas en récolter d'autres. Jamais plus je ne foulerais les flancs bourdonnants du mont Dicté. Je ne pourrais plus tirer d'eau de son bassin argenté. Tous ces endroits dont m'avait parlé Hermès, l'Arabie, Assur et l'Égypte étaient à jamais perdus pour moi. « Tu ne quitteras jamais cette île », avait dit ma sœur. Par défi, je repris à corps perdu mon ancienne vie. Je fis ce que j'aimais au moment où j'en avais envie. Je chantais sur les plages, réorganisais mon jardin. J'appelais les cochons pour gratter les soies sur leur dos, brossais la toison des moutons, invitait les loups à venir s'allonger devant ma porte, pantelant. Si la lionne roulait ses yeux jaunes dans leur direction, elle se tenait coite, car j'avais édicté une loi contraignant tous mes animaux à coexister. Toutes les nuits, je sortais déterrer mes herbes et mes racines. Je fabriquais les charmes qui me venaient à l'esprit, juste pour le plaisir de les sentir se tricoter entre mes doigts. Le matin, je cueillais des fleurs pour égayer ma cuisine. Le soir, après le dîner, je m'installais au métier à tisser de dédale. Il me fallut un certain temps pour assimiler son fonctionnement, parce qu'il ne ressemblait à aucun métier des appartements divins. Il était doté d'un siège, et la trame allait vers le bas et non vers le haut. Si ma grand-mère l'avait eu devant elle, elle m'aurait offert son serpent de mer en échange. Le tissu qu'il produisait était plus fin que ses meilleurs ouvrages. Dédale avait vu juste. J'aimais tout dans ce processus, sa simplicité et sa performance immédiate, son odeur de bois, le chut de la navette, la manière plaisante dont les trames s'empilaient les unes sur les autres. C'était un peu comparable au travail des charmes, pensais-je, où les mains doivent être occupées alors que l'esprit reste libre et affûté. Cependant, ce que je préférais n'était pas tant le métier à tisser que la fabrication des teintures. Je partais en chasse des meilleures couleurs, la racine de garance et le safran, l'écarlate de cochenille de kermesse et le murex de la mer couleur vin sombre, ainsi que la poudre d'alun pour les aider à adhérer à la laine. Je les pressais, les aplatissait, les laissait tremper dans de grandes marmites bouillonnantes jusqu'à ce que ces liquides puants prennent les teintes vives des fleurs, cramoisies, jaunes canaries et ce violet profond porté par les princes. Si j'avais eu l'habileté d'Athéna, j'aurais pu tisser une grande tapisserie représentant Iris, la déesse de l'arc-en-ciel, jetant ses couleurs depuis les cieux. Mais je n'étais pas Athéna. Je me contentais parfaitement d'écharpes, de capes et de couvertures qui reposaient sur mes sièges, tels des bijoux. J'en drapai une sur ma lionne et l'appelai reine de Phénicie. Elle resta assise, tournant la tête de tous côtés comme pour souligner la façon dont le violet rehaussait sa fourrure d'un éclat doré. « Tu ne verras jamais la Phénicie. » Je me levai de mon tabouret et m'obligeai à parcourir l'île à pied, admirant les changements apportés par chaque heure. Les araignées d'eau qui effleuraient la surface des étangs, les pierres rondes verdies et polies par les courants des rivières, les abeilles volant bas, alourdies de pollen. Les baies étaient remplies de poissons qui fouettaient l'eau, les graines sortaient de leurs cosses. En fin de compte, mon dictame et mes lys de crête prospéraient. « Tu vois ?» dis-je à ma sœur. Ce fut Dédale qui répondit. « Une cage dorée restera toujours une cage. » Le printemps se transforma en été et l'été en un automne odorant. Il y avait désormais des brumes le matin et parfois des orages la nuit. L'hiver allait bientôt arriver avec sa propre beauté, les feuilles vertes des lébores brillant au milieu du brun environnant et les hauts cyprès sombres se découpant contre le ciel métallique. Bien qu'il ne fasse jamais vraiment froid, pas comme au sommet du mont Dictée, j'étais heureuse d'avoir mes nouvelles capes pour grimper sur les rochers en plein vent. Mais, en dépit de toutes ces beautés et de tous ces plaisirs environnants, les paroles de ma sœur me poursuivaient, railleuses, s'insinuant en moi jusqu'à la moelle. « Tu te trompes au sujet de la sorcellerie !» lui expliquai-je à voix haute. « On ne la pratique pas par haine. Mon premier sort, je l'ai fabriqué pour Glaucos, par amour. » J'entendais sa voix de vison comme si elle était devant moi. Malgré tout, c'était bien par défiance envers notre père, par défiance envers tous ceux qui t'ont méprisé et qui t'auraient empêché d'obtenir ce que tu désirais. J'avais surpris le regard d'Hélios au moment où il avait enfin compris ce que j'étais. Il s'était dit qu'il aurait dû m'étrangler au berceau. Exactement. Tu vois comment ils ont empêché notre mère d'enfanter de nouveau. As-tu déjà remarqué avec quelle facilité elle manipule père et nos tantes ? J'en étais consciente. Cela semblait provenir de quelque chose de plus profond que la beauté, que tous les tours salaces qu'elle pouvait connaître au lit. « Elle est intelligente. »« Intelligente !» s'esclaffa Pasiphaé. « Tu l'as toujours sous-estimée. Je ne serais pas surprise qu'elle ait elle-même du sang de sorcière. Ce n'est pas d'Hélios que nous tenons nos sorts. » Je m'étais moi-même posé cette question. « Maintenant, tu regrettes de l'avoir méprisée. Tu as passé les journées à baiser les pieds de père en espérant qu'il la mettrait sur la touche. » J'arpentais les rochers. Il y avait des centaines de générations que je parcourais la terre, mais j'étais encore une enfant vis-à-vis de moi-même. La rage et le chagrin, le désir contrarié, la luxure, l'auto-apitoiement, voilà des émotions que les dieux connaissent bien. En revanche, la culpabilité et la honte, le remords, l'ambivalence sont des contrées étrangères aux nôtres que nous devons apprendre pas à pas. Je pensais sans cesse au visage de ma sœur, à ce choc brut qui s'était peint sur ses traits quand je lui avais dit que je ne serais jamais comme elle. Qu'avait-elle espéré ? Que nous nous enverrions des messages dans le bec d'oiseaux marins ? Que nous partagerions nos sorts ? Que nous combattrions les dieux ? Que nous deviendrions peut-être enfin, à notre manière, des sœurs ? Je tentais de l'imaginer, nos têtes penchées de concert sur nos herbes, son rire quand elle élaborerait un tour ingénieux. Dans ces moments-là, je me prenais à souhaiter, oh, une dizaine de choses impossibles. D'avoir compris plus tôt ce qu'elle était, d'avoir grandi ailleurs que dans ces salles scintillantes. J'aurais pu atténuer ses poisons, la détourner de ses abus, lui apprendre à ramasser les meilleures herbes. « Ah ! » s'exclama-t-elle. « Je n'ai pas de leçons à recevoir d'imbécile comme toi. Tu es faible et aveugle, et c'est encore pire parce que c'est ton choix. Tu finiras par le regretter. » Tout était plus facile lorsqu'elle était haineuse. « Je ne suis pas faible, et je ne regretterai jamais de ne pas être comme toi. Tu m'entends ?» Il n'y eut pas de réponse, bien sûr, juste l'air qui avalait mes paroles. Hermès revint. Je m'y attendais. Je ne croyais plus qu'il avait conspiré avec Pasiphaé, seulement que c'était sa nature de se vanter de ce qu'il savait et de rire des autres qui ne savaient rien. Il se laissa aller dans mon fauteuil argenté. « Alors, la crête t'a plu ? J'ai entendu dire qu'il s'était passé des choses excitantes. » Ce soir-là, je lui donnai à manger et lui versai du vin avant de l'emmener dans mon lit. Il était toujours aussi beau, toujours aussi rapide, aussi joueur pendant nos accouplements. Mais tantôt je riais, tantôt ses pitreries me laissaient un goût amer dans la bouche et je le renvoyais. Lorsqu'il tendait les mains vers moi, je ressentais un étrange malaise. Elles étaient parfaites, dépourvues de cicatrices. Mon ambivalence ne faisait bien sûr que l'encourager. Chaque défi représentait pour lui un jeu, et chaque jeu un plaisir. Si je l'avais aimé, il serait parti, alors que ma révulsion le ramenait sans cesse à moi. Il s'employa assidûment à me choyer de nouveau, m'apportant présents et nouvelles, me dévoilant toute l'histoire du Minotaure sans que j'aie rien demandé. Il me raconta ainsi qu'après mon départ, l'aîné de Minos et Pasiphaé, Androgé, avait été assassiné près d'Athènes au cours d'un voyage sur le continent. Le peuple de Crète, réticent à l'idée de perdre ses fils et ses filles à chaque moisson, menaçait désormais de se révolter. Minos saisit l'occasion. En guise de rétribution pour la mort de son fils, il exigea que le roi athénien envoie chaque année 7 garçons et 7 filles pour nourrir le monstre, sinon la puissante marine crétoise lui déclarerait la guerre. Effrayé, le roi accepta, et l'un des jeunes gens désignés fut son propre fils, Thésée. Ce prince était le mortel que j'avais vu au bassin sur la montagne. Mais ma vision ne m'avait pas tout révélé. Sans la princesse Ariane, il aurait pu mourir. Elle tomba amoureuse de lui et, pour le sauver, lui fit passer en cachette une épée et lui apprit à retrouver son chemin dans le labyrinthe, comme le lui avait enseigné Dédale en personne. Quand Thésée émergea du labyrinthe, les mains couvertes du sang du monstre, les larmes qu'elle versa ne furent, malgré tout, pas des larmes de joie. « J'ai appris, poursuivit Hermès, qu'elle ressentait un amour malsain pour la créature. Elle se rendait souvent devant sa cage pour lui parler doucement à travers les barreaux en lui offrant des friandises de sa propre table. Une fois, elle s'est approchée trop près et la créature lui a planté ses dents dans l'épaule. Elle s'est échappée et Dédale a recousu la blessure qui lui a laissé une cicatrice en forme de couronne à la base du cou. Je me souvins de son expression lorsqu'elle avait dit « mon frère ». A-t-elle été punie pour avoir aidé Thésée ? Non, elle s'est enfuie avec lui après la mort de la créature. Thésée l'aurait bien épousée, mais mon frère a décidé de la garder pour lui. Tu sais combien il aime les filles aux pieds légers. Il a demandé à Thésée de la laisser sur une île en lui disant qu'il reviendrait la chercher. Je savais de quel frère il parlait, Dionysos, seigneur du lierre et de la vigne. Fils tapageur de Zeus, que les mortels appellent le libérateur, puisqu'il leur enlève leurs soucis. Au moins, songeais-je, avec Dionysos, elle dansera tous les jours. Hermès secoua la tête. Il est arrivé trop tard. Elle s'était endormie et Artémis l'a tuée. Il avait annoncé cette nouvelle avec une telle décontraction que pendant une minute, je crus avoir mal entendu. Comment ? Elle est morte ? Je l'ai conduite moi-même aux enfers. Cette fille si agile et pleine d'espoir. Pour quelle raison ? Je n'ai pas réussi à obtenir une réponse franche d'Artémis. Tu sais comme elle a mauvais caractère, indifférent, incompréhensible. Il haussa les épaules. Ma sorcellerie ne faisait pas le poids face à un Olympien, je le savais. Pourtant, à ce moment-là, j'eus envie d'essayer. d'invoquer tous mes charmes, de mettre toute ma volonté dans les esprits de la terre, les bêtes, les oiseaux, et de les lancer aux trousses d'Artémis jusqu'à ce qu'elles se sentent vraiment traquées. « Allons, dit Hermès, si tu pleures chaque fois qu'un mortel meurt, tu te seras noyé en un mois. Sors d'ici. » Icare, Dédale, Ariane, tous partis pour ces champs sombres, où les mains ne rencontraient que de l'air et où les pieds ne touchaient plus terre. Si seulement j'avais été là, pensais-je. Cela dit, ma présence aurait-elle changé quelque chose ? Hermès avait raison. Les mortels mouraient à tout moment, d'un naufrage ou d'un coup d'épée, tués par une bête sauvage ou par des hommes enragés, par la maladie, la négligence et l'âge. Comme Prométhée me l'avait expliqué, c'était leur destin, l'histoire qu'ils partageaient tous. Ils avaient beau être saisissants, brillants, accomplir des merveilles durant leur vie, ils n'en redevenaient pas moins poussière et fumée. Et pendant ce temps-là, chaque dieu médiocre et inutile continuerait à aspirer l'air vif jusqu'à ce que les étoiles s'éteignent. Hermès revint, comme toujours. Je le laissais faire. Lorsqu'il scintillait dans ma maison, mes grèves ne me paraissaient plus aussi étroites, et me savoir exilé ne pesait plus aussi lourdement sur moi. « Raconte-moi les dernières nouvelles, lui disais-je. Parle-moi de la Crète. Comment Pasiphaé a-t-elle pris la mort du Minotaure ?»«
Il paraît qu'elle est devenue folle de chagrin. Elle ne porte plus que du noir en signe de deuil.
Ne sois pas bête, elle ne devient folle que si ça l'arrange. »
On raconte qu'elle a envoyé des malédictions à Thésée, et que depuis, le mauvais sort s'acharne sur lui. As-tu appris les circonstances de la mort de son père ?
Mais Thésée m'importait peu. C'était ma sœur qui m'intéressait. Hermès avait dû bien s'amuser en me racontant histoire sur histoire à son sujet. Qu'elle avait interdit à Minos l'accès à son lit, et que la seule joie qui lui restait était sa benjamine, Phèdre. Qu'elle hantait les pentes du mont Dicté, retournant la montagne de fond en comble à la recherche de nouveaux poisons. J'amassais chacun de ces détails, tel un dragon qui veille sur son trésor. Je m'aperçus que je cherchais quelque chose, sans être capable de dire quoi. Comme tous les bons conteurs, Hermès savait garder le meilleur pour la fin. Un soir, il me relata un tour que Pasiphaé avait joué à son époux au début de leur mariage. Ce dernier ordonnait à toutes les filles qui lui plaisaient de le rejoindre dans sa chambre au vu et au su de son épouse. Elle lui jeta donc un sort qui transforma sa semence en serpent et en scorpion. Dès qu'il couchait avec l'une de ses conquêtes, il la piquait à mort à l'intérieur. Je me souvins de la dispute dont j'avais été témoin. « Une centaine de filles », avait dit Pasiphaé. C'était peut-être des servantes, des esclaves, des filles de marchands, toutes celles dont les pères n'auraient pas osé faire d'histoire avec Minos. Toutes annihilées, pour rien d'autre que des plaisirs et des vengeances mesquines. Je renvoyai Hermès et fermai les volets, ce qui ne m'arrivait jamais. N'importe qui aurait pu croire que j'étais en train de jeter un énorme sort, mais je ne cherchais pas mes herbes. Je ressentais une sorte de joie aérienne. Cette histoire était si affreuse, si bizarre et dégoûtante qu'elle me donnait l'impression d'avoir un début de fièvre. Si j'étais coincée sur cette île, au moins, je n'étais pas obligée de partager le monde avec Pasiphaé et ses semblables. Tout en faisant les 100 pas près de ma lionne, je dis tout haut « C'est terminé. Je ne penserai plus jamais à eux. Je les ai reniés. Entre eux et moi, c'est fini. » La féline appuya sa joue sur ses pattes repliées, le regard rivé au sol. Peut-être savait-elle quelque chose que j'ignorais.